Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marc Oloridon et Nicolas Sendé, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Laurie Vachon. Deuxième temps de notre série consacrée aux forces de l'ordre à travers le monde. Après avoir évoqué hier les modèles allemands et britanniques, avant d'aborder demain la police devenue criminelle du côté du Nigeria ou des Philippines, et puis jeudi les mécanismes de l'état policier, on se tourne aujourd'hui vers le pays d'où est parti cet été un grand mouvement de réflexion mondiale sur les violences policières, les États-Unis.
S'il vous plaît, écoutez l'appel que je vous adresse maintenant. Les appels de notre famille et les appels qui résonnent dans le monde entier. Des gens de tous les milieux, de tous les sexes et de toutes les races se sont rassemblés pour exiger un changement. Honorez-les, honorez George Floyd, et apportez les changements nécessaires pour que les forces de l'ordre soient la solution et non le problème. Faites en sorte qu'elles rendent des comptes quand elles agissent mal. Et apprenez-leur à traiter les gens avec empathie et respect. Ce jour-là, George Floyd ne faisait de mal à personne. Il ne méritait pas de mourir pour $20. Je vous le demande, est-ce que c'est ça ce que vaut un homme noir, $20? Nous sommes en 2020. Trop, c'est trop.
Auditionné le 10 juin par une commission du Congrès, le frère de George Floyd, un Américain noir mort asphyxié sous le genou d'un policier le 25 mai à Minneapolis, a livré un vibrant plaidoyer pour une réforme des forces de l'ordre aux États-Unis. Si les élus démocrates se sont empressés de proposer une loi justice dans la police, adoptée par la Chambre fin juin, celle-ci a très peu de chances d'être approuvée par le Sénat. Et il faudra attendre l'arrivée effective de Joe Biden au pouvoir pour que le nouveau président, qui était intervenu en visioconférence aux obsèques de George Floyd, présente ses propres initiatives sur le sujet. Mais l'échelle fédérale n'est pas nécessairement la plus indiquée pour s'attaquer à cet enjeu. La Maison-Blanche se trouve en prise en étau entre une Cour suprême très attachée à sa doctrine de l'immunité qualifiée qui protège les policiers auteurs de violences et des autorités locales qui ont bien davantage de latitude en matière de police, la plupart des effectifs étant municipaux ou dépendants du comté. Des villes comme Atlanta, Minneapolis, San Francisco se sont d'ailleurs déjà attelées à des réformes. Alors que peut-on attendre? Que nous disent les précédentes réformes dans le domaine? Dans quelle mesure l'arrivée au pouvoir de Joe Biden pourrait-elle laisser envisager leur extension à une échelle fédérale? Dans quelle mesure un retour sur la doctrine de l'immunité qualifiée est-il aussi envisageable au sein d'une Cour suprême désormais majoritairement conservatrice? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Anne Desine. Bonjour Anne Desine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste, professeur émérite de droit et civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre. Vous aviez signé notamment l'année dernière Les États-Unis, la démocratie chez l'Armatan. Avec nous également Yann Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Merci également infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous maître de conférence en histoire et civilisation américaine à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, et affilié au Centre d'études nord-américaines de l'EHESS. Et tiens, je vais commencer avec vous, si vous le permettez, Yann Philippe, pardonnez-moi, Anne Desine. Depuis plusieurs mois, Yann Philippe, on sent un véritable élan de réforme autour des polices du pays. Il y a un certain nombre de villes, on va en parler, qui ont engagé des transformations. On aura peut-être, dans les mois qui viennent, des évolutions au niveau fédéral, on va regarder ça. On a aussi des protestations qui ont été quand même d'une ampleur rare dans l'histoire des États-Unis, dépassant même les frontières du pays. Est-ce que vous pensez, en tant qu'historien, Yann Philippe, que 2020 constituera pour les historiens de demain une année charnière où, en réalité, ce ne sera probablement pas la rupture qu'on attend, Yann Philippe ?
Alors, comme vous l'avez dit, je suis historien, donc c'est difficile de prévoir l'avenir.
C'est pour ça que je vous pose la question, Yann Philippe, voilà, figurez-vous, pour vous embarrasser.
Exactement. Je dirais qu'on se situe dans une séquence chronologique peut-être un peu plus large que l'année 2020. Il me semble qu'on peut considérer la période 2014-2020. 2014, marquée par la mort de Michael Brown à Ferguson dans le Missouri, la mort d'Eric Garner à New York, qui avait déjà déclenché des protestations vives et mis en branle un activisme très important sur les questions policières autour de ce qu'on a appelé, ce qui s'est appelé Black Lives Matter. Et juste pour le resituer historiquement, je dirais que c'est important aussi parce que Aux États-Unis, les entreprises de réforme de la police, c'est quelque chose de légitime. Ça fait partie de l'exercice démocratique. Au 19e siècle, quand ont été créées la plupart des forces de police municipales, elles ont été créées dans cette perspective démocratique. Et si les pouvoirs des policiers n'étaient pas toujours précisés n'étaient pas toujours définis de manière précise dans les règlements policiers, c'était au nom de l'idée démocratique, c'est-à-dire de l'idée que lors des élections, on pourrait revenir sur la façon dont ces polices étaient administrées, et donc que le peuple avait son mot à dire en matière de réforme policière. Et ce mouvement a connu son apogée à la fin du 19e et au début du 20e siècle, pour ensuite connaître une forme de d'éclipse au cours du 20e siècle.
Ouais, donc au fond, le système américain a d'une certaine manière institutionnalisé cette capacité à réformer son système de police. On va y revenir évidemment. Anne Desine, je m'adresse à la politiste que vous êtes également, Anne Desine. On va parler tout à l'heure des questions purement de justice, mais on a eu une campagne, on l'a vu, extrêmement marquée par ces mouvements de dénonciation des violences policières. Et c'est vrai qu'en la matière, on a eu deux candidats qui avaient des positionnements radicalement opposés. Jusqu'où est-ce que vous diriez aujourd'hui, Anne Desine, que la victoire de Joe Biden s'explique par précisément cette différence de position sur la question des violences policières? Jusqu'où ces violences ont pesé, selon vous, dans ce scrutin qui maintenant est entériné? A priori, c'est bien Joe Biden qui sera le prochain président. La Cour suprême a rendu ses derniers avis. Bon, c'est clair maintenant. Anne Desine, jusqu'où ça a pesé?
Alors, plusieurs choses. Oui, c'est clair, mais je ne retirerai pas l'hypothèse d'encore un suspense le 6 janvier. Mais la Cour suprême a rejeté les deux derniers pourvois, ce qui était normal. Elle se serait totalement discréditée si elle les avait acceptés. Alors, effectivement, nous avons Biden qui a fait campagne sur tout un tas de choses, c'est-à-dire le contraire de Trump, l'empathie, le consensus, et je pense que le refus du racisme, le besoin de réformer, le refus des violences de l'extrême droite faisaient partie de ce package. Et les 78 millions d'électeurs qui ont voté pour lui ont voté pour un retour à, disons, l'image positive des États-Unis, qui n'est pas un pays raciste, alors que Donald Trump a surfé sur...
Voilà, ça c'est un exemple typique d'une ligne qui casse, preuve encore une fois que nous sommes en direct et que la radio à distance, c'est parfois compliqué. Alors je vais récupérer Yann Philippe, on va peut-être poursuivre un petit peu, et en particulier sur ce qu'a été le positionnement de Joe Biden sur ces questions de violence policière. Parce que oui, en effet, il s'est démarqué des positions outrancières de Donald Trump, et en même temps, il a été relativement prudent. Je pense par exemple à la question du définancement, en tout cas de la réduction des financements de la police, ce grand mouvement sur lequel on va évidemment se pencher avec ce slogan « Defund the police », il a été quand même assez mesuré sur ces questions-là. Il n'est pas question pour lui de baisser radicalement, structurellement, les dépenses de la police, Yann Philippe.
Oui, il a été particulièrement prudent. Tout en semblant se ranger, tout en se rangeant du côté de la réforme. Alors, il est prudent pour différentes raisons, je pense. L'une, c'est une question de cohérence dans son itinéraire politique. Joe Biden, c'est un homme politique qui a fondé sa carrière sur les questions de lutte contre la criminalité, sur son soutien aux forces de police. Il est notamment l'architecte de plusieurs lois passées au Congrès américain, notamment dans les années 90, qui ont permis de renforcer le financement de la police, les équipements de la police, voire de durcir les peines. Voilà. Donc il a cette image-là, et aussi il a eu un positionnement prudent avec l'idée que l'élection était difficile et qu'il fallait s'opposer à Trump en présentant une image relativement modérée. Donc à la fois du côté de la réforme, mais suffisamment modéré pour attirer les électeurs centristes qui pourraient être effrayés par l'idée de réforme radicale de la police. Donc il me semble que son positionnement se comprend à l'aune de ces deux raisons.
Alors, on a récupéré Anne Désine. Anne Désine, je vais vous laisser reprendre votre argumentaire. Je vous en prie, Anne Désine.
Oui. Alors, en entendant Anne-Philippe, je pensais à deux choses. Premièrement, la police est quand même née après la guerre de sécession et beaucoup considèrent que quelque part, elle porte le poids qu'elle était aussi destinée à empêcher que les Noirs ne prennent trop d'importance. C'est une vision, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et l'autre chose, je pense, qui est bon de souligner, quand on reprend cette période 2014-2020, je suis d'accord avec ce positionnement chronologique, c'est que les derniers sondages, au moment des élections, montraient un basculement, c'est-à-dire qu'il y a dorénavant une majorité, y compris parmi les Blancs, qui considèrent qu'il y a un problème. Alors, peut-on parler de racisme systémique ? Peut-être pas. Mais qu'il y a un vrai problème et que des mesurettes ne suffisent pas, qu'il faut vraiment une réflexion globale pour éviter que cette situation, qui touche la police, mais qui touche aussi l'enseignement, l'emploi, le logement, que cette situation ne perdure. Alors, quand je vous ai récupéré, j'ai vu que vous parliez du positionnement de Biden. Oui. Effectivement, il était confronté à une partie de sa gauche, minoritaire, mais qui faisait du bruit, qui était en faveur de « defund the police », donc on prive la police de financement. Et il est certain que s'il avait suivi cette branche, il aurait fait peur à une partie de l'électorat. En revanche, il y a un mouvement qui gagne, qui consiste à dire « il ne s'agit pas de supprimer la police, il ne s'agit pas de la primer totalement de financement, mais il s'agit de réorienter une partie des financements vers d'autres activités qui, quelque part, participent à la paix sociale, mais qui ne sont pas des activités de police militarisées. Mmh. Et je pense aux polices de proximité, je pense aux soins psychiatriques, je pense aux campagnes de désintoxication, parce que tout ceci s'inscrit plus globalement dans la campagne massive de lutte contre la drogue, comme elle était appelée, qui a conduit à des taux d'incarcération jamais atteints.
Yann Philippe, là on est sur un point important et il va falloir mettre peut-être un peu de détails et de complexité dans tout cela. Parce qu'effectivement, quand on regarde le paysage des personnes qui dénoncent les violences policières et qui souhaitent des réformes, on voit des choses très différentes. Il y a d'un côté un camp de purs réformistes qui veulent effectivement changer les choses, qui veulent même baisser peut-être en partie les crédits qui sont alloués aux dispositifs de police, sachant qu'ils sont extrêmement nombreux, je l'ai dit tout à l'heure. On est dans une situation où on a des polices municipales, des polices du comté, on a une police fédérale évidemment, mais tout cela est très complexe. Mais on a de l'autre côté du spectre, carrément, des personnes qui disent il faut purement et simplement abolir la police, en tout cas la police municipale, et laisser au fond d'autres entités, notamment les polices de comté, s'occuper de tout ça. Si on commence par le premier volet, c'est-à-dire ceux qui souhaitent définancer, baisser le financement de la police. On a eu des exemples, par exemple à New York, le maire a décidé de réduire le budget de la police pour en transférer une partie justement sur les actions sociales, sur les aides à la jeunesse, etc., etc. Un peu pareil du côté de Los Angeles, qui a annulé une augmentation de 150 millions de dollars qui était prévue au départ pour la police. Au-delà de ces deux exemples-là qu'on a de New York et de Los Angeles, jusqu'où ce mouvement-là est engagé aux États-Unis? Cette réduction des crédits destinés aux polices, jusqu'où ça pourrait aller, Yann Philippe?
Alors, là encore, je pense qu'on est dans une tendance.
Oui.
Les difficultés financières issues de la crise de 2008 ont pesé sur les budgets municipaux aussi. Il y avait déjà des demandes depuis 2014 d'activistes pour réduire les budgets policiers. Alors, pour l'instant, il me semble que ces baisses de financement restent un peu à la marge. À Minneapolis, à Los Angeles, on est à 5% de baisse du budget. Alors, c'est une somme qui est importante, hein, et la police de Los Angeles a tout de suite communiqué en disant que ça allait la contraindre à supprimer un certain nombre d'unités, donc par exemple l'unité qui a enquêté sur Harvey Weinstein. Voilà, donc là on voit comment il y a tout de suite un débat politique sur l'utilisation des fonds. Donc on est loin d'un définancement radical des forces de police, et on voit bien toute l'ambiguïté qu'il y a pu avoir autour de ce slogan, puisque par exemple si on prend l'exemple de Minneapolis, hein, on a eu un vote du conseil municipal en juin, hein, dans le contexte de la mort de George Floyd, un vote solennel du conseil municipal visant à démanteler la police. La police municipale. Et les conseillers qui ont voté ce texte se sont retrouvés assez embêtés ensuite pour le mettre en pratique et finalement ont reculé sur cette promesse pour simplement mettre en place une réduction du budget et une augmentation des services sociaux, etc. Donc d'allouer différemment une partie du budget qui est votée pour la police et récemment aussi les électeurs ont pu s'exprimer et donc par exemple dans le comté de Los Angeles il y a eu le vote d'une allocation spécifique du budget qui aurait pu aller à la police pour aller vers des services sociaux.
Anne Desine, au-delà des cas particuliers des villes, c'est vrai qu'on a vu au niveau national une campagne qui vise au démantèlement pur et simple de la police. Il y a une campagne nationale qui est baptisée Aid to Abolition, qui vise tout simplement à démanteler la police, à libérer massivement les prisonniers. Est-ce que ces mouvements abolitionnistes sont nouveaux ou finalement là aussi ça s'inscrit dans un contexte historique bien plus profond et on a simplement là une caisse de résonance beaucoup plus forte qui fait qu'on en parle, Anne Desine?
Oui, on en parle beaucoup plus et il ne faut pas nier le rôle des téléphones portables avec les vidéos et des réseaux sociaux. En fait, il y a toujours eu ce mix de demandes. Là, on parle plus de définancer la police, mais pour moi, tout est lié, c'est-à-dire...
Et to abolition, c'est vraiment, c'est pas définancer, c'est carrément la démantèle. Hein.
Oui. Oui, mais là, c'est quand même une toute petite partie. Ça me fait penser à un des groupes de Minneapolis qui doit s'appeler Black Visions Collective. Eux, ils sont vraiment extrémistes. On a reproché à Black Lives Matter d'être trop gentil, trop transtriste et de ne pas pousser assez. Ce groupe de Minneapolis, enfin, d'ailleurs, c'est à Minneapolis que se trouvent les plus extrêmes dans ces propositions d'abolition, de définancement. Mais de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut bien une police. Et de toute façon...
Oui, mais vous pouvez retirer une police municipale et laisser le comté prendre la relève. C'est exactement, par exemple, ce qui s'est passé à Camden, qui est une commune du New Jersey, qui a 74 000 habitants. Oui. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et par ailleurs, et on va en discuter avec Yann Philippe, il semble que les résultats ne soient pas complètement mauvais et que donc, c'est une chose qu'on peut interroger. Mais je vous laisse finir.
Je pense que... Oui, les résultats sont plutôt bons, mais c'est extrêmement compliqué.
Ouais, ouais.
Je veux dire, il suffit pas de claquer dans les doigts pour mettre fin à un système. Et puis, il y a un acteur dont il faut parler, ce sont les syndicats de policiers.
Ouais.
Ils sont très, très puissants. Et à chaque fois qu'il est question de baisser le budget pour la police proprement dite, pour faire partir 150 millions à des tâches de nature plus sociale dont nous parlions à l'instant, ils sont vent debout. Mmh. Donc passer d'un type de police à une autre, ça veut dire mettre en cause des intérêts acquis. Et nous savons tous que c'est le plus difficile.
Et c'est d'ailleurs un point sur lequel Yann Philippe vous insistez beaucoup dans un article récent, très intéressant, qui a été publié dans la revue AOC, titré « Un pouvoir en bleu de part et d'autre de l'Atlantique à propos des projets de réforme de la police ». Je ferme les guillemets et vous soulignez effectivement la puissance de ces syndicats de police aux États-Unis. Mais Yann Philippe, si on reprend l'exemple que j'évoquais, c'est-à-dire cette ville du New Jersey, 74 000 habitants, Camden, on décide en 2013 de dissoudre la police alors qu'on a une ville qui est rongée par la violence, et c'est le comté qui prend la relève, qui double les effectifs au niveau du comté, qui s'occupe de la sécurité de la ville. Le résultat sur la criminalité, sur les phénomènes de violence policière, est-ce qu'on peut mesurer tout cela, Yann Philippe?
Alors, on peut essayer de le mesurer, notamment dans les consignes qui ont été données de procéder à moins d'arrestations, d'infliger moins d'amendes à la population. Donc, il y a effectivement eu la recherche d'une forme d'action policière qui soit plus douce, plus transparente, plus en accord, enfin qui recherche plus l'insertion dans la population, la légitimité de la police auprès de la population. Et de manière générale, ça s'inscrit dans une réflexion qui a pris de l'ampleur récemment sur l'idée que la police doit changer de mode d'action pour être moins agressive. On a construit, depuis les années 70, on a construit des polices militarisées aux États-Unis, très agressives, et qui, du coup, avec des formes de culture policière à centrer autour du combat, donc les policiers se définissent comme des combattants du crime, et il faudrait passer à une autre forme d'action policière, plus soucieuse des besoins effectifs des communautés qu'elles servent, qu'elles policent. Et alors toute la question qui se pose effectivement, c'est est-ce que ça change, est-ce que ça passe par un changement d'organisation totale? Avec toutes les difficultés que ça pose, ça pose des problèmes institutionnels, des problèmes politiques, des problèmes légaux. Ou est-ce que on peut arriver avec une pression extérieure sous diverses formes, on va pouvoir en parler, à transformer les cultures policières locales?
Alors, ce qui peut participer justement à la transformation de ces cultures policières, Anne Desine, c'est la justice, parce que parmi les critiques formulées concernant les violences policières, c'est l'idée que eh bien, les policiers qui sont responsables de bavures bénéficieraient trop souvent d'une forme d'impunité. Tiens, je vais vous poser la même question tout à l'heure, un peu générale, et puis on va rentrer dans le détail, parce qu'évidemment, il faut regarder ce qu'a dit la Cour suprême sur ce sujet ces dernières années pour comprendre un peu les choses. Mais comme je le disais tout à l'heure à Yann Philippe, est-ce que vous pensez que là, précisément, ces manifestations de cette année, et puis plus généralement, puisque vous étiez d'accord l'un et l'autre pour dire que le cycle a commencé en réalité en 2014? Mais est-ce que vous pensez qu'on est rentré dans une nouvelle ère, Anne Desine, celle où l'impunité générale des policiers responsables de bavures a pris fin?
Oui, mais avant, j'aimerais bien revenir sur ce qui a été dit pour dire que je suis entièrement d'accord. Plutôt que de changer de police, il faut changer la philosophie de la police, les formes d'action de la police en agissant sur le recrutement et la formation. Et ça, il peut y avoir des signaux qui pourraient venir du département de la justice au niveau fédéral. Mais je pense à des réformes qui étaient dans plusieurs référendums d'initiative directe, là en novembre 2020, sur des comportements qui seraient interdits. Il y a plusieurs municipalités qui ont dit la population, la police doit arrêter de se livrer à ce qu'on appelle en anglais stop and frisk, c'est-à-dire arrêter les gens, les fouiller, les palper, sans aucune cause probable. Parce qu'il est ressorti des études que c'est seulement dans 77% des cas que l'on trouvait de la drogue ou un produit incriminant, et surtout que le pourcentage des minorités et des noirs arrêtés dans ce type de procédure était bien supérieur au pourcentage dans la population.
Et vous, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait un signal du niveau fédéral, et donc concrètement qu'on fasse passer une loi.
Si les municipalités interdisent ce type de comportement, par définition, ça diminue les chances qu'il y ait de la violence lors d'une possibilité d'arrestation. De même, il y a d'autres municipalités qui ont interdit ce fameux stranglehold, l'étranglement par le policier. Donc, quelque part, ça pourrait changer.
Mais pour revenir mais jusqu'où, à la pardon. Alors, attendez, on va prendre les choses dans l'ordre, Anne Desine. Non, je vous en prie. Sur la question de l'étranglement, jusqu'où, justement, on pourrait étendre son interdiction? Parce que, après l'affaire de George Floyd, justement, Donald Trump, dont on sait pourtant combien il défend ses policiers, quels qu'ils soient, avait signé un décret qui interdisait les prises d'étranglement, sauf en cas de danger pour la vie de la police. Il avait appelé le Congrès à inscrire assez rapidement cette évolution dans la loi, sauf qu'en fait, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que on n'arrive pas au niveau du Congrès à obtenir de réelles avancées en la matière.
Oui, parce que ça ne relève pas du pouvoir fédéral. Je suis pas sûre que l'interdiction de Stranglehold puisse passer par la voie du Congrès, sauf pour les forces de police fédérales. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, par exemple, DEA pour la drogue, FBI et compagnie. Non, mais si beaucoup de municipalités interdisaient ces deux pratiques.
Je ne sais pas s'il le peut, Anne Desine, pardon, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était dans la proposition démocrate du projet de loi qui, malheureusement, probablement ne passera jamais puisqu'il est bloqué au Sénat, mais qui a été adopté à la Chambre des représentants. Cette question de l'interdiction des techniques d'étranglement, elle était dans la loi démocrate. Hein.
Ah non, mais bien sûr, et c'est bien que ce soit dans la loi. C'est simplement le sentiment que ça envoie un message important dans la bonne direction, mais ce n'est pas nécessairement ce qui peut agir. Et de surcroît, le problème, et là je viens quand même à votre question sur la justice, c'est que à partir du moment où un policier, même en admettant que la loi soit adoptée, se livre à cette pratique d'étranglement, cela va venir devant la justice. Tant qu'il y a une jurisprudence extrêmement restrictive pour que les droits de la victime, de la personne arrêtée, du suspect, soient respectés, la police entend le message « oui, c'est interdit dans la loi », mais finalement, ce n'est pas vraiment une base légale qui va permettre au suspect d'obtenir gain de cause. Et par conséquent, les comportements vont continuer. Là, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 80, où la Cour suprême est devenue de plus en plus conservatrice, elle a petit à petit développé cette doctrine, effectivement, de qualified immunity. Alors, on traduit immunité qualifiée, c'est théoriquement, ça veut dire nuancée. Ça voudrait dire que l'immunité n'est pas totale. Il faut quand même que le policier en question ait agi de bonne foi. Et c'est d'ailleurs la défense qu'il utilise. Il dit, oui, voilà, il s'est passé cela. Mais j'ai dû prendre une décision rapide en quelques secondes et par conséquent, j'étais de bonne foi et en vertu de cette doctrine jurisprudentielle de la Cour, il n'est pas possible de me condamner.
Qui remonte à 1967.
Voilà, ça c'est la première décision, ensuite ça a été renforcé un petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ceci part d'une loi qui a été adoptée pendant la Reconstruction, donc après la guerre de sécession, c'est une première loi sur les droits civils, dont le surnom, c'est quand même révélateur, c'était le Ku Klux Klan Act, donc la loi Ku Klux Klan. Donc on comprend bien aussi ce qui était en jeu. Donc on voulait protéger les policiers de façon à ce qu'ils ne soient pas trop condamnés, et on voulait aussi protéger les municipalités de façon à ce qu'elles n'aient pas à verser des dommages et intérêts considérables. Et au fil du temps, la Cour suprême a été plus protectrice. La bonne nouvelle, c'est que au sein de la Cour, il y a même des conservateurs, et je pense à l'un d'entre eux, Justice Thomas, Clarence Thomas, donc le noir à la Cour suprême, qui trouve que cette doctrine, finalement, s'est éloignée de ses objectifs et que, quelque part, elle constitue une atteinte au pouvoir du Congrès, car il considère que ce serait au Congrès de légiférer et non pas à la Cour de continuer à élaborer des doctrines jurisprudentielles.
Yann Philippe, sur cette difficulté effectivement au niveau fédéral de faire passer des lois et surtout sur cette prédominance finalement de la Cour suprême qui, par ses différents avis, la mise en place de cette fameuse immunité qualifiée, même si Anne Désine nous disait que la traduction n'était pas forcément la meilleure, en tout cas c'est celle qu'on utilise le plus souvent, où en fait, en réalité, c'est la justice qui a le dernier mot et qui fait que les policiers sont de façon un peu systémique défendus et que l'impunité est assez largement la règle en la matière. Yann Philippe.
Oui, alors moi je dirais que l'angle juridique est peut-être ne couvre peut-être qu'une seule partie du problème. Alors les décisions de la Cour suprême disent ce que le policier a le droit de faire, mais il y a de plus en plus de réflexions surtout chez les dirigeants policiers plus que chez les policiers eux-mêmes sur ce qu'ils peuvent et devraient faire. Donc et alors de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les techniques dites d'étranglement pour arrêter des citoyens sont interdites dans un certain nombre de départements de police par les règlements policiers eux-mêmes. Et donc le problème on a des cas de morts de victimes de violences policières à cause de techniques qui sont interdites par les départements de police. Et donc ce qui me semble en cause ici, c'est la capacité des départements de police à apprendre, à être suffisamment informés de ce qui se passe sur le terrain. Et le fait que, par exemple, les règlements policiers ne soient absolument pas appliqués sur les terrains par les policiers eux-mêmes. Et donc ça suppose que l'information remonte depuis le terrain jusque dans la hiérarchie policière. Et là, de ce point de vue-là, il y a deux choses qui sont importantes. Une, qui est des procédures systématiques permettant de rendre compte des incidents qui ont eu lieu sur le terrain. Donc que les policiers qui ont utilisé la force établissent de manière systématique des rapports sur leur action. Et l'autre, c'est l'action des sergents. Des sergents qui donc ont la fonction de superviser les officiers de police sur le terrain, enfin les agents sur le terrain, et donc il faut qu'ils revoient systématiquement ces rapports pour voir si des actions répréhensibles ont eu lieu et si oui, s'il faut faire remonter cette information aux dirigeants policiers.
Il y a exactement un mois, George Floyd a prononcé ses derniers mots. Je ne peux pas respirer. Il a changé la trajectoire de l'histoire.
Nous devons régler aux États-Unis le problème du racisme systémique et il faut commencer par mettre fin au cancer des violences policières. C'est ce que permet le projet de loi du George Floyd, Justice in Policing Bill.
Il y a 236 oui et 181 non. La loi est adoptée.
Voilà, on entendait la voix notamment de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et puis le député démocrate Hakeem Jeffries. Alors, la loi est adoptée, oui, du côté de la Chambre des représentants, mais toujours bloquée du côté du Sénat, Nézine. Cette proposition de loi, je le disais, interdisait notamment l'usage de la technique d'étranglement. Est-ce que vous nous dites, en fait, Nézine, que tout cela ne sert pas à grand-chose? Parce que en réalité, ce qui se joue derrière, c'est les questions de justice, de cour suprême que vous évoquiez juste avant, ou est-ce que vous nous dites bah quand même, ça peut être intéressant au niveau fédéral d'avoir une loi comme celle-ci. Alors pour le moment, je le disais, elle est bloquée au Sénat, mais sait-on jamais, il y a encore une incertitude sur la couleur du prochain Sénat, on attend encore les résultats pour la Géorgie, traditionnellement on le sait, conservatrice, mais qui pourrait basculer du côté démocrate. Est-ce que si on pose l'hypothèse que le Sénat passe du côté démocrate et qu'une telle loi est passée, est-ce que ça pourrait changer les choses?
Je n'ai pas trop d'espoir sur le Sénat, parce que même si c'est à 50-50, il reste la règle du filibuster, etc. En revanche, tout ceci envoie un signal
quelle
fort.
Est cette règle ? Pardon, pour... quelle est cette règle ?
C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 40 sénateurs qui ne veulent pas la loi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir 50 plus la voix de la vice-présidente, Kamala Harris. Mm-hmm. En raison du filibuster, on peut bloquer n'importe quel texte dès lors que...
On a 40 opposants.
Voilà, exactement, puisque pour passer outre ce qu'on appelle la règle de la clôture, il faut 60 sénateurs qui votent.
D'accord.
Donc, franchement, je n'ai pas trop d'espoir sur le Sénat. En revanche, je trouve que toutes les déclarations, le fait que cette loi ait été adoptée à une majorité conséquente, ça envoie des signaux forts et ça complète ce qui se passe au niveau local. Parce que l'un des obstacles, c'est le manque de transparence. Et le manque de transparence, il est dû... Un, à la solidarité entre les policiers. Les policiers ne vont pas dire que leurs petits camarades ont abusé de la force. Et pour avoir cette transparence, le fait que beaucoup de municipalités obligent au port de la caméra, c'est une bonne chose. Alors évidemment, ce qui pose problème, c'est qu'ensuite, il faut généralement... Mais bon, là, je parle sous le contrôle du spécialiste de la police, mais généralement, il y a un délai très long entre le moment où une scène qui pose problème est filmée et le moment où les vidéos... sont accessibles à ceux qui ont besoin de les voir. Et à cet égard, les municipalités qui ont mis dans la loi ou qui ont mis dans les référendums d'initiative directe la création de ce qu'on appelle Oversight Committee, c'est-à-dire un comité de surveillance, un comité de contrôle composé de civils, ça voudrait dire que ça rendrait plus difficile cette solidarité, cette espèce de mur de blocage des policiers qui font front pour éviter que les civils ne viennent fourrer leur nez dans leurs affaires. Non, ça avance, ça bouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien suivre les sondages. L'opinion publique, les sondages montrent que l'opinion publique est prête à avancer, qu'elle est consciente qu'il y a des vrais risques systémiques et qu'un certain nombre de réformes s'impose. Et pour revenir à la Cour suprême, bien sûr, c'est tout un tas de choses, mais elle ne fonctionne jamais dans un vide. Elle est quand même consciente de ce qui se passe dans la société. On a dit que, et moi aussi je l'ai écrit d'ailleurs, elle est toujours un peu en avance ou un peu en retard, mais quelque part, elle finit par se mettre au diapason de la société. Et donc, ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'au sein de la Cour, donc il y a 9 juges, il y a un conservateur ultra, Thomas, qui est pour réformer cette doctrine de l'immunité, donc qualifiée... Voilà. Et Sotomayor, qui est sans doute la plus à gauche maintenant que Justice Ginsburg est décédée, qui dit de toute façon, alors pas pour les mêmes raisons, mais elle dit, à partir du moment où on protège systématiquement les policiers alors qu'ils ont abusé de la force, ça revient à nier l'existence du 4e amendement qui interdit qu'une personne soit fouillée ou qu'un domicile soit perquisitionné sans qu'il y ait ce fameux mandat de perquisition ou qu'il y ait une cause probable, le terme juridique. Donc, non, ça bouge.
Ça bouge, mais concrètement, ça se matérialise comment, Anne Désine ? Parce que la Cour suprême ne fait pas la loi. La Cour suprême, non. J'entends bien, se met au diapason de la société, mais comment est-ce que ça peut se traduire très concrètement, cette évolution qu'on entend, qui est intéressante, effectivement ? Par-delà, au fond, les clivages, il y a cette tendance de la Cour suprême à se mettre en harmonie avec la société. Mais comment ça peut se concrétiser ?
La Cour suprême, elle envoie des messages. Le message qu'elle a envoyé ces 20 dernières années aux policiers, c'était « ne vous faites pas de soucis,
ouais, on vous protège.
Vous ne serez pas condamnés ». Et donc là, le fait que tout ceci soit tellement discuté, la transparence, le manque de... Alors un mot intéressant, « accountability », la possibilité de rendre des comptes. Alors, en français, on dit être redevable, redevabilité. Bon, le fait qu'il faille plus de « accountability », plus de transparence... Ça gagne. Beaucoup de personnes considèrent que oui, les policiers sont importants et même ceux qui considèrent que la police est importante, qu'il n'est pas question de les définancer, se disent c'est peut-être pas mal qu'ils fonctionnent dans un cadre plus démocratique avec davantage de transparence. Et donc, la Cour suprême, là c'est intéressant, il y a plusieurs affaires touchant à cette immunité où les parties demandent que l'affaire remonte jusqu'à la Cour suprême. Donc on va voir si elle en accepte certaines et quel type de décision elle va rendre. Et ça nous donnera une idée de savoir si elle commence à évoluer et si en particulier elle est décidée à mettre fin à ce message d'impunité qu'elle a envoyé pendant 20 ans.
Encore un mot, Yann Philippe, et puis ensuite on va partir du côté du Mexique. Mais je disais tout à l'heure que vous souligniez dans cet article paru dans la revue AOC l'importance des syndicats dans cette affaire-là, parce que il faut bien comprendre qu'ils sont évidemment un obstacle à la réforme de l'institution policière. Pourquoi, au fond, les syndicats de police aux États-Unis sont si influents et pèsent autant, Yann Philippe ?
Alors, je dirais d'abord pour des raisons politiques. Parce que c'est les seuls syndicats qui sont soutenus à la fois par les républicains et les démocrates de manière générale. Les démocrates parce qu'ils sont favorables aux syndicats de manière générale, et les républicains qui sont hostiles aux syndicats mais favorables aux policiers. Donc ça c'est une donnée importante. Ensuite, la police est une profession extrêmement syndicalisée. Une très très forte proportion des effectifs sont syndicalisés, ce qui donne beaucoup de pouvoir aux syndicats qui ont un véritable pouvoir politique, qui agissent comme des lobbies, qui interviennent auprès des assemblées des États ou des municipalités pour obtenir des textes favorables aux policiers. Et donc, par exemple, des accords de branche qui permettent aux policiers qui rendent difficile le contrôle disciplinaire par leur supérieur.
Et vous pensez, voilà, donc, yes. Et vous pensez qu'on peut dépasser ça, Yann Philippe ?
Alors, il me semble que ça bouge. Je serais d'accord pour dire que ça bouge. Et je pense vraiment que la solution ne viendra pas juste de la Cour suprême, mais d'un ensemble de facteurs. Alors, ça peut bouger du côté de la Cour suprême, mais on a un activisme militant très important qui a réussi en partie à transformer l'opinion publique au cours de cette année. Donc, si 2020 a changé, c'est de ce point de vue-là, et ça a été évoqué par Anne Désine, même si il y a eu peut-être une forme d'atténuation de ce soutien à Black Lives Matter au cours de l'été, et aussi des prises de conscience de la part des dirigeants policiers. Et donc là, on va avoir en fait une situation où on va avoir des rapports de force entre d'un côté les hommes politiques, enfin le monde politique, notamment démocrate, qui peut pousser aux réformes, l'activisme militant souvent localisé, mais qui a désormais une sorte d'audience nationale grâce à Black Lives Matter, et donc les syndicats de police qui vont essayer de défendre coûte que coûte leur autonomie, et je dirais aussi que le changement peut s'inscrire aussi dans une tendance plus longue. Il faut penser que jusqu'aux années 70, la quasi-totalité des forces de police n'avait aucune consigne écrite sur l'usage de la force. On manque de données sur les homicides commis par les policiers, mais il semblerait que la situation, ce soit paradoxalement, peut-être, mais on n'a pas des données systématiques, donc c'est difficile de réfléchir, mais depuis les années 70, depuis la fin du XXe siècle, il est possible qu'il y ait une forme d'amélioration, et notamment dans le traitement des minorités. Et donc que le différentiel de traitement se soit en fait légèrement réduit, même si il n'évite pas les bavures policières qu'on a connues récemment.
Ouais, et d'ailleurs, justement, précisément, cette question des données que vous évoquiez, c'est un des points sur lesquels Joe Biden s'est engagé. Il veut que le FBI fasse un recensement exhaustif des personnes tuées par la police, parce que ça, jusqu'ici, ça n'existe pas, et ce qui existe, c'est des indicateurs qui sont proposés par les médias. On est avec vous, Yann Philippe, et vous, Anne Desine, dans cette semaine consacrée aux polices. On parle des États-Unis, et on va franchir la frontière sud des États-Unis pour aller du côté du Mexique, où la réforme de la police est un sujet récurrent depuis très longtemps, depuis l'indépendance de l'État en réalité. Et si les enjeux diffèrent dans ce pays en proie à un colossal trafic de drogue alimentant une corruption généralisée, eh bien, ils se recoupent néanmoins en plusieurs points. Comme les États-Unis, le Mexique est un État fédéral où la multiplication des acteurs impliqués dans le maintien de l'ordre est jugée responsable, en tout cas pour partie, des dérives auxquelles il donne lieu. Et puis, comme aux États-Unis, la police est régulièrement accusée de racisme. Pour tenter de répondre aux défis de la police, les présidents tentent régulièrement d'engager des réformes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Es sin duda.
C'est sans doute un moment historique
que constitue le début de la mission
pour cette nouvelle institution, qui s'appelle la Garde nationale. Elle est chargée dans notre pays, au Mexique, de lutter contre les graves problèmes d'insécurité et de violence.
Bonjour Arnaud Exbalin.
Bonjour Florian Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Cette voix qu'on entendait à l'instant, c'est celle du président mexicain Andrés Manuel López Obrador qui annonçait la création de cette garde nationale mexicaine. C'était une promesse de campagne. Il l'a tenue et effectivement, elle a été mise sur pied, en mars 2019. Vous pouvez nous rappeler les missions officielles de ce nouveau corps, les motivations qui ont poussé le président Obrador à créer cette nouvelle force et puis on verra les effets.
Alors oui, bon, depuis les années 2000, hein, il y a une succession de réformes de police, mais je dois dire que comme historien, en tout cas pour moi, elles ne font guère illusion. Vous savez qu'on a une expression au Mexique qui dit « policia nueva, viejos vicios », police nouvelle, vieux vice. Alors effectivement, une de ces réformes est celle de la Guardia Nacional. Vous l'avez très bien dit, elle a été mise en place en 2019. En fait, il s'agissait de supprimer les federales, c'est-à-dire les policiers des États à l'échelle subnationale, qui étaient considérés, selon les mots de Andrés Manuel López Obrador, comme, je cite, des incapables corrompus dont on ne peut rien tirer. Et donc, ces policiers fédéraux ont été supprimés au profit d'une police mieux formés, mieux payés, mieux équipés, en tout cas sur le papier, et surtout plus disciplinés et plus centralisés.
Qui dépend de l'État fédéral.
Qui dépend de l'État fédéral, oui. C'est-à-dire que là, le modèle qui a été choisi, c'est celui de l'armée, et donc il s'agit d'une police militaire au service du pouvoir exécutif du président de la République. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 90 000 hommes sur pied qui vivent en caserne, et qui sont en fait peu formés à la résolution pacifique des conflits, mais qui sont bien armés et qui disposent d'un bel uniforme.
Mais est-ce que derrière l'uniforme, les résultats sont au rendez-vous ? Parce que ce qui est étonnant dans le cas du Mexique, c'est qu'effectivement, on n'arrête pas de réformer. 2014, l'ancien président Enrique Peña Nieto, lui, il avait engagé une autre réforme de la police municipale. Oui. Et lui, l'objectif, c'était précisément de dissoudre les corps de police municipaux au profit de la création de 32 unités de police qui correspondaient aux 32 États qui forment la République du Mexique, ceux-là même précisément qu'Obrador critiquait et pour lesquels il a mis en place cette garde nationale au Mexique. Mais l'idée en fait de départ de Peña Nieto n'était pas idiote, c'est-à-dire qu'il s'agissait, en tout cas c'était son ambition, de sortir de l'échelon municipal pour s'extirper de cette proximité possible entre policiers et criminels qui expose évidemment au risque de corruption. Donc l'idée c'était de dire on va rattacher la police à l'État et donc à son gouverneur et donc il y a moins de risque de collusion, sauf que ça n'a pas du tout marché. Pourquoi ça n'a pas marché ?
Ben non, ça n'a pas marché parce qu'en fait, la corruption... Alors, peut-être qu'il faudrait revenir sur votre introduction. Hein. Vous avez établi une correspondance entre la police au Mexique et la police des États-Unis. Mais en fait, c'est pas du tout... C'est ni la même histoire, ni la même culture politique, ni même la même configuration institutionnelle. constitutionnel, hein, puisque vous avez rappelé qu'effectivement il s'agit d'une organisation politique fédérale, hein, on parle des États-Unis du Mexique, qui a été mise en place dès les lendemains de l'indépendance. Mais au Mexique, les municipalités jouent historiquement un rôle central dans le déploiement des polices, et ce qui n'est pas le cas, je pense...
Bon, aux États-Unis aussi, quand même.
Ah bon. Il y a une tradition centraliste beaucoup plus forte au Mexique qu'aux États-Unis. Hein. La capitale, Mexico, voilà, est capitale depuis le XIVe siècle. Et puis, le niveau de défiance envers la police au Mexique atteint absolument des records, et c'est pas nouveau. Hein. Ça date de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. Je vous donne peut-être un petit exemple. Hein. Lorsqu'il y a un délit, il est très rare que le citoyen ait recours à la police et dépose une plainte, car selon les Mexicains, ce serait « meterse en problemas graves », c'est-à-dire se confronter à des problèmes...
Se mettre dans des problèmes très graves, ouais. Mais oui. Cette question, Arnaud Exbalin, de la centralité de la police, plutôt de quel niveau de centralisation, parce que vous dites plusieurs siècles, est-ce que vous êtes en train de me dire que la question de savoir où on place le curseur du contrôle de la police, c'est quelque chose qui a plusieurs siècles? C'est aussi vieux que ça, c'est-à-dire que, y compris à l'époque de la colonisation espagnole, on se posait cette question.
Oui, alors oui, bien sûr. Hein. Alors à l'époque coloniale, moi, ce qui m'intéresse, hein, je travaille sur la longue durée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que historiquement, ce sont les îles qui ont été fondées dès le XVIe siècle par les Espagnols qui mettent en place les premières polices, donc qui sont vraiment des polices locales, hein, des commissions qui s'occupent d'ailleurs pas que de sécurité, mais aussi de l'approvisionnement, de l'ornement, de la propreté des rues, et que à partir des années 1760, sous l'effet des réformes bourboniennes, donc qui sont des réformes centralisatrices, eh bien il y a une volonté de contrôle, de centralisation des polices, en créant de nouveaux corps policiers qui étaient d'inspiration madrilène. Donc c'est intéressant, c'est d'aborder le problème sur la longue durée, ouais, et de voir que ces réformes qui ont eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, eh bien elles posaient déjà la question de la centralisation, mais elles ont eu du mal à aboutir.
Alors évidemment cette perspective historique nous éclaire sur la situation d'aujourd'hui, mais il faudrait pas oublier non plus, Arnaud Exbalin, le contexte actuel, et il y a quand même un élément peut-être qu'il faut mettre en avant. C'est la question du salaire. Quand on regarde le salaire des policiers municipaux, c'est entre, parfois même pas $100, jusqu'à un peu plus de $300. C'est des salaires qui sont vraiment assez bas. C'est-à-dire qu'on peut être serveur de restaurant et gagner plus qu'un policier municipal. Donc on comprend là très bien qu'il peut être extrêmement facile pour des trafiquants de corrompre des policiers municipaux, policiers qui peuvent être tentés évidemment d'accepter quelques services, quelques compromissions pour arrondir les fins de mois. Est-ce que en réalité le problème, au-delà des enjeux que vous évoquiez qui sont réels bien sûr de centralisation, mais est-ce que au fond le problème essentiel c'est pas celui de la puissance financière économique du narcotrafic, plutôt qu'un problème d'institution et d'organisation de la police?
Alors oui, effectivement, hein, vous l'avez dit, le contexte actuel a beaucoup pesé dans les réformes de police. Hein. Il y a deux contextes, hein, qui sont combinés, celui de la démocratisation du Mexique avec une alternance politique au début des années 2000, et puis la rupture opérée en 2006 par Felipe Calderón de la guerre lancée aux narcotrafiquants. Hein. Juste un chiffre, il y a plus de 300 000 morts aujourd'hui au Mexique. Et donc, bien évidemment, les corps de police municipaux, du fait de leur proximité avec la population, sont très sensibles au phénomène de prévarication. Mais en fait, ça touche absolument tous les échelons du commandement policier. Hein. Je vais vous donner un petit exemple. Genaro García Luna, qui était celui qui avait mis Florence Cassez en prison pendant 7 ans, et qui était alors le chef de la police judiciaire, est devenu par la suite ministre de la Sécurité publique, et il est aujourd'hui, donc depuis un an, en prison au Texas pour complicité avec le cartel de Sinaloa. Donc il y a deux choses, à mon avis, qui jouent dans le délitement de l'institution policière. Si on peut parler d'institution policière, parce que vous l'avez dit, ça se joue à plusieurs niveaux, mais c'est donc d'une part la puissance des narcotrafiquants, et d'autre part une culture policière qui est propre aux institutions et au corps de la police, et qui est un univers fait à la fois de virilité, de loi du silence, de parrainage et de secret. C'est pour ça qu'il est très dur d'enquêter sur les pratiques de police aujourd'hui. Ceux qui le font le mieux, ce sont les journalistes, et vous le savez, les journalistes au Mexique sont tués.
Oui, ils le payent de leur vie pour beaucoup, malheureusement. Peut-être une toute petite réaction, Yann Philippe, vous êtes encore avec nous sur cet exemple mexicain. Je disais tout à l'heure l'importance de cette police municipale aux États-Unis. Je me trompe pas, elle est très importante, cette police municipale aux États-Unis. L'échelon municipal est très important, Yann Philippe.
Tout à fait, tout à fait. Et si je puis rebondir sur la relation avec le pouvoir fédéral,
je vous en prie.
Une des choses sur lesquelles s'est engagé le candidat Biden, c'est de revenir à un rôle de supervision du pouvoir fédéral sur les forces de police, alors qu'elles soient organisées à l'échelle du comté, de la municipalité ou de l'État. Donc c'est quelque chose qui avait été mis en place par une loi dont il était d'ailleurs à l'origine en 1994 et qui permet au département de la justice de l'État fédéral d'enquêter sur les organisations policières qui procéderaient à des qui remettraient en cause de manière régulière les droits civiques de la population. Et c'est quelque chose qui est, et c'est donc, il y a eu une quarantaine de procédures de ce genre qui ont été initiées dans les années 2000, et c'est quelque chose auquel ont mis fin le président Trump et son premier ministre de la justice. Donc voilà, ça c'est un engagement sur lequel Biden s'est très fortement engagé et qui a fonctionné sous Obama et qui pourrait donc fonctionner à nouveau.
Merci beaucoup à nos invités, Arnaud Exbalin qui est avec nous par téléphone, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Un grand merci également à vous, Yann Philippe, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes vous maître de conférence en histoire et civilisation américaine à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et affilié au Centre d'études nord-américaines de l'EHESS. Un grand merci également à Anne Desine qui était avec nous, professeure émérite de droit et de civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre, autrice notamment des États-Unis, la démocratie s'était parue chez l'Armatan. On mettra évidemment toutes les références de vos ouvrages, de vos articles, notamment celui d'A aussi, Yann Philippe, que j'ai cité aujourd'hui, sur la page de Culture Monde. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
La littérature allemande, Brice, est parfois étrangement muette sur le passé récent du pays.
Oui, dans un court texte paru en 1999, Luft, Krieg und Literatur, guerre aérienne et littérature, pudiquement publié chez Actes Sud sous le titre « De la destruction », Sebald faisait observer que le bombardement des villes allemandes durant la Deuxième Guerre mondiale avait fait l'objet d'un étrange refoulement dans la littérature d'après-guerre. Désireux de reconstruire leurs deux pays sur de toutes nouvelles bases, d'oublier les hontes de leur propre passé, les Allemands ne voulaient pas se souvenir non plus de la destruction militairement injustifiée de plusieurs grandes villes allemandes. 1 million de tonnes de bombes lancées depuis les airs, 600 000 victimes civiles en Allemagne. Mais la Luftwaffe n'avait-elle pas enclenché elle-même ce processus dément en bombardant Varsovie en septembre 1939, Londres, Coventry, Birmingham, Manchester durant le Blitz de septembre 1940 à mai 1941. Lorsqu'il se rend une première fois à Manchester en 1969, Sebald observe que dans certains quartiers de cette ville, il restait encore des immeubles en ruine datant de cette époque. L'aptitude des hommes à oublier ce qu'ils ne veulent pas savoir, écrit-il, à détourner le regard de ce qu'ils ont devant eux, a rarement été mise à l'épreuve comme dans l'Allemagne de cette époque. Le miracle économique de l'après-guerre en République fédérale exigeait le refoulement de toute la période 1933-45, y compris celui des souffrances allemandes. Mais il y a d'autres événements tragiques de cette histoire qui n'étaient pas abordés par la littérature. En particulier, la fuite de plusieurs millions de femmes et d'enfants allemands des territoires de l'Est devant l'avancée d'une armée rouge bien décidée à venger les atrocités commises par les troupes allemandes en URSS. Ces réfugiés constituaient 18% de la population de la République fédérale au début des années 60 et ils pesaient d'un poids politique considérable. C'est Helmut Kohl qui mit un terme définitif aux vieilles revendications allemandes sur la Poméranie, la Silésie, la Prusse orientale qui inquiétaient légitimement les Polonais. Il est à présent possible d'évoquer le sort des réfugiés allemands des territoires de l'Est fuyant l'avancée des soviétiques sans nourrir un vieux filon revanchiste d'extrême droite.
Et c'est ce qu'a fait Brice, l'un des plus grands écrivains allemands de notre temps, Walter Kempowski, disparu en 2007 dans un livre récemment paru en français sous le titre « Schluss ».
Oui, la plus grande partie du roman se déroule dans le manoir quelque peu délabré d'une vieille famille de l'aristocratie allemande. Il y a là la mère, Katharina, obsédée par le vague souvenir d'un flirt adultère, la tante, exilée de sa chère Poméranie, qui gère ce qui reste du domaine et qui régente les domestiques, et puis un garçonnet, Peter, très occupé par son train électrique, son microscope, et puis par les cours que vient lui prodiguer à domicile un vieil enseignant vaguement amoureux de sa mère et qui espère surtout qu'on lui donnera quelque chose de chaud à manger à la cuisine. Il collectionne, ce professeur, les lettres de ses anciens élèves relatant leurs exploits et leurs souffrances sur le front. Après la guerre, il compte, dit-il, publier un recueil de ses textes admirables. Ce petit château semble oublié par les drames de l'histoire. Ses personnages vivent au bord d'un précipice qui va les engloutir, mais ils imaginent pouvoir continuer leur petite vie allemande bien ordonnée. Kempowski raconte porte au style indirect les pensées et les actions des uns et des autres avec un détachement teinté d'ironie. Jusque-là, vous me direz, on se croirait dans un roman post-romantique d'Edward von Kaiserling, sauf que le père est absent, il fait la guerre quelque part en Italie, que depuis le lotissement social de l'autre côté de la rue, le responsable local du parti nazi ne cesse de venir inspecter ce qui se trame au manoir. Il suspecte ces aristocrates d'indépendance d'esprit et que surtout sur la route, la file des chariots tirés par des chevaux ne cesse de grossir. Les civils allemands fuient dans l'hiver glacial, croisant de temps à autre des colonnes de blindés qui montent vers le front. Dans la salle de billard, désertée parce que non chauffée, des cousins ont laissé là leur argenterie et d'autres possessions précieuses et ils ont prévenu que rien ne devrait manquer lorsqu'ils reviendront en reprendre possession après la guerre. Tous ces gens vivent dans l'illusion d'un retour à la normalité, à l'inéluctable victoire finale de leur fameuse race supérieure. La vie assoupie du vieux manoir est troublée par le passage de réfugiés de plus en plus envahissants. Chacun semble poursuivre une obsession particulière et avec eux, le chaos de l'histoire se fait de plus en plus proche, de plus en plus insistant. Bientôt, l'énergique vieille tante ordonne au jardinier polonais de préparer la vieille calèche et puis un attelage. Il va falloir rejoindre le flot des réfugiés. On ne pourra pas attendre Katharina. Elle est en prison pour avoir donné refuge une nuit dans sa propre chambre à un juif en fuite. À la fin de l'histoire, le chaos de la guerre aura raison de cette apparence de stabilité. Tout volera en éclats. Seuls les chiens de garde nazis maintiennent l'illusion d'un ordre, tandis que les chariots se feraient un chemin de plus en plus hasardeux sur la Baltique gelée.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, sur l'application Radio France. On vous retrouve demain et dans quelques instants, c'est Olivier Gesbert à la Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.